partout quand tu lis les journaux, les géants de la tech, c'est Alibaba, c'est Amazon, etc. Et moi, quand j'ai travaillé chez Lazada / Alibaba, j'ai été super surprise du niveau d'intégration de la tech dans notre quotidien, qui était très très bas.
Salut, c'est Maxime et vous écoutez Sonar, le podcast qui vous aide à trouver votre cap face à l'océan des possibles. Toutes les semaines, j'interviewe un jeune actif issu d'école de commerce pour échanger sur ses choix de début de carrière, son métier et l'industrie dans laquelle il évolue, pour vous aider à trouver la voie qui vous correspond.
Aujourd'hui, je reçois Shana Ayash, Chief Revenue Officer chez Euritech, une start-up spécialisée dans l'analyse prédictive de données à destination du secteur de la mode. Avant ça, Shana a travaillé plusieurs années en Asie, et notamment au sein du groupe Alibaba, dont on a parlé dans le podcast.
Très bonne écoute.
Salut Shana, merci beaucoup de m'accorder un peu de ton temps pour échanger sur ton parcours dans Sonar. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement en expliquant ce que tu as fait jusqu'à présent et où est-ce que tu en es aujourd'hui ?
Bonjour Maxime, enchantée, bienvenue dans les locaux de Euritech. Merci. Je suis Shana, je suis actuellement Chief Revenue Officer chez Euritech. En quelques mots, j'ai été diplômée de l'ESCP en 2014 et je suis ensuite partie travailler chez une boîte qui s'appelle Lazada, qui a été rachetée 2 ans après mon arrivée par le groupe Alibaba en Asie. Et puis après 3 ans chez Lazada / Alibaba, je suis rentrée à Paris et j'ai rejoint une start-up qui s'appelle Euritech, où je suis du coup actuellement Chief Revenue Officer.
Est-ce que tu pourrais justement expliquer quelle est l'activité de ces deux entités, de Lazada et d'Euritech aujourd'hui où tu travailles ?
Alors Lazada, tout simplement, c'est l'équivalent de Amazon en Asie du Sud-Est. Donc c'est un site de e-commerce où on trouve tout. Des téléphones portables jusqu'aux tétines pour les bébés. C'est un peu la référence de e-commerce, sachant que Amazon n'est pas en Asie du Sud-Est ou peu. Euritech, en quelques mots, c'est de l'intelligence artificielle dans le milieu du luxe et de la mode. Donc on analyse ce que les gens portent, notamment sur les réseaux sociaux, et on utilise cette information pour définir et prédire les tendances. Et cette information, on la vend aux marques de luxe et de mode.
Ok, super clair. Donc, pour revenir un peu sur du coup, Alibaba et ton expérience chez Lazada au préalable, pour contextualiser, tu sors d'école, tu pars chez Lazada. Pourquoi tu as fait le choix d'aller travailler et vivre en Asie après tes études à l'ESCP ?
En fait, à l'époque où j'ai décidé de partir chez Lazada, j'avais plusieurs objectifs. Le premier, c'était de partir à l'étranger. Et l'Asie m'attirait beaucoup, puisque c'était vraiment une zone de croissance. Et puis c'était un peu folklorique. Moi j'étais en stage chez Rothschild et j'avais envie d'autre chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en 2014, le e-commerce, c'est pas ce que c'était aujourd'hui en 2020. C'était le début. C'était un peu peut-être comme aujourd'hui l'intelligence artificielle. On sent qu'il y a un truc qui se passe. On ne sait pas trop encore. Moi, je m'en rappelle, je regardais les chiffres. C'était 5% du commerce est fait en ligne. Et l'Asie était bizarrement très avancée sur le e-commerce. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller faire du e-commerce en Asie.
Okay. Et à l'époque, Lazada, ça représentait quoi en termes de taille ? C'était une moyenne entreprise, une grosse entreprise ?
En fait, disons que Lazada, c'était quand même, en termes de e-commerce, c'était la référence en Asie du Sud-Est. Donc c'est pour ça que partir en Asie et faire du e-commerce, Lazada, c'était le choix évident, clairement. C'était une entreprise, on va dire, de taille moyenne. Ça faisait 250 millions de volume d'affaires, à peu près. Il y avait, je ne sais pas moi, dans le bureau où j'étais à Jakarta, on devait être 80 personnes. Donc c'était une entreprise de taille moyenne. Qui a évidemment évolué en un géant.
Et tu, qu'est-ce que tu faisais toi là-bas ?
Moi j'ai commencé, alors c'est l'avantage de travailler dans des boîtes de type Lazada, donc des boîtes assez jeunes, c'est qu'on peut changer de rôle assez facilement et c'est d'ailleurs assez encouragé. Donc moi j'ai commencé en tant que directrice de catégorie des appareils photo et des caméras. Donc directrice de catégorie, en gros, c'est être responsable du revenu de sa catégorie pour son pays. Donc c'est un petit peu comprendre c'est quoi les leviers de croissance pour cette catégorie c'est quoi les actions à mettre en place pour favoriser la visibilité, le taux de conversion, etc. Donc c'est un rôle très central où il faut travailler avec les équipes des achats, les équipes marketing, avec les équipes visual merchandising. Et puis, une fois que j'ai acquis une bonne connaissance du marché indonésien, on m'a proposé de changer de rôle et d'aller être country manager pour la partie cross-border. Donc, ça veut dire lancer l'activité cross-border pour l'Indonésie. Qu'est-ce que c'est que le cross-border en un mot ? On a des vendeurs en Chine et on a des pays en Indonésie. Comment est-ce qu'on permet à ces vendeurs chinois de vendre en Indonésie et dans les restes des pays de Lazada ? Et ça a d'ailleurs été un développement de Lazada qui a été crucial dans l'acquisition par le groupe Alibaba.
Donc, tu changes de poste un petit peu avant l'acquisition ?
Exactement. En fait, l'objectif, c'était d'aller ouvrir ce bureau cross-border qui était déjà un premier pas, parce qu'une acquisition comme ça se prépare quand même un petit peu en amont vers l'acquisition. Et moi, je suis partie à Hong Kong à peu près 8-9 mois avant l'acquisition.
Donc, Lazada se fait racheter par Alibaba, qui est le géant de la tech chinoise. Mm-hmm. Et à ce moment-là, dans quelle mesure ça a changé ta manière de travailler et orienter en fait la suite de ton parcours chez eux et ensuite ailleurs?
En fait, le rachat, ça a eu deux gros impacts. Le premier, c'est qu'on est passé d'une entreprise, on va dire, de taille moyenne à un géant. Donc évidemment, les manières de travailler, les process, les outils qu'on a à disposition changent complètement. Et mon rôle avec, évidemment. Le deuxième élément, c'est que je suis passée d'un management européen, parce que Lazada, c'est une boîte de roquettes, donc c'est un management principalement européen, à un management chinois, donc qui a des visions de management, de rôle de l'employé, qui sont très différentes. Donc, au bout de quelques mois, ma place et mon rôle ont vraiment changé, dans le sens où je travaille pour un groupe qui fait plusieurs milliards. Donc là où avant, j'avais un impact sur quelques millions, j'avais un impact sur quelques milliards. Donc évidemment, les équipes pour un même scope grossissent et par définition, et c'est normal, ta contribution individuelle diminue. Et moi, ça m'a un petit peu dérangée, ou en tout cas, c'est une autre forme de travail. C'est ni mieux ni moins bien, c'est différent. Et l'autre chose, c'est que les Chinois ont, de ce que j'ai vu, je ne veux pas faire de généralité, quand même une tendance à micromanager et diviser les projets en une multitude de petites tâches avec des honneurs différents. Et de même, ça change un peu la manière de travailler.
Pour recontextualiser, tu as mentionné ça, donc Lazada est une boîte qui a été créée par Rocket Internet, qui est un start-up studio basé en Allemagne initialement. Ils créent des entreprises à partir de business models existants, c'est ce qu'ils ont fait ici. Avec Lazada. Est-ce que très concrètement, tu en as parlé un petit peu, tu pourrais expliquer ce que tu as perçu de différence de management culturellement entre effectivement des équipes qui devaient être, j'imagine, constituées plutôt d'Européens ou de personnes occidentales et que ça influait du coup la manière dont la boîte était gérée et ce que tu as retrouvé ensuite chez Alibaba très concrètement.
Ouais. Très concrètement, management européen et surtout management Rocket, parce que Rocket Internet, ça a une culture assez forte. C'est une culture de « je lance un projet, donc voilà, je donne une direction très high level et ensuite les équipes se débrouillent pour implémenter. » Et donc, même si tu n'as que 2 ans d'expérience, tu te retrouves à gérer ton projet de A à Z de façon assez libre. Donc, c'est du management, je dirais quand même assez heads-off. C'est un management de performance, donc ça c'est dans la plupart, ça n'a rien à voir avec si c'est européen ou pas européen, c'est un management dans les boîtes qui grossissent vite, c'est drivé par de la performance. Et le management chinois, c'est un management où c'est beaucoup plus atomisé. Ce serait le mot. C'est-à-dire qu'un projet va être découpé par le management et chaque sous-élément du projet sera confié à une personne avec quelqu'un d'assez high level qui va rassembler les différents éléments. C'est un management, d'ailleurs Rocket aussi, hein, et qui est assez, qui a besoin de beaucoup de visibilité. Mais alors, autant le management européen, je pense, c'est une visibilité sur les résultats et la performance, autant le management chinois, il y a aussi une demande de reporting sur le quoi, le comment. Ce qui n'est pas du tout quelque chose dont j'avais l'habitude. Moi, on me demandait juste combien, en fait. Et là, on est passé de me demander combien à comment et pourquoi, et beaucoup plus de détails dans le reporting.
Ouais, chose qui t'a peut-être moins convenu.
Ouais.
Je voudrais juste revenir sur une expérience que tu as au préalable pour bien comprendre.
Ouais.
C'est que tu as fait de la banque d'affaires
ouais.
Chez Rothschild, qui est évidemment une banque très connue, mondialement connue d'ailleurs. Dans quelle mesure tu penses que cette expérience t'a servi à la fois dans ton expérience chez Lazada et en fait par la suite dans le cadre de ta vie professionnelle plus généralement?
Moi, j'ai fait que 6 mois chez Rothschild, mais je suis extrêmement reconnaissante de cette expérience qui a été en fait ma première expérience professionnelle. Et je dirais que ça m'a appris toute la base des hard skills. Je ne dis pas que c'est les seules choses qu'une banque d'affaires peut apporter, mais en tout cas, moi qui suis restée que 6 mois, c'est ce que ça m'a apporté. Comment est-ce qu'on construit un pitch deck? Comment est-ce que je construis un business plan? Comment est-ce que j'utilise Excel? Comment est-ce que j'utilise PowerPoint? Et ça, en fait, c'est la base de la base. Et c'est ce qui m'a permis de monter assez vite quand je suis arrivée chez Lazada. J'avais une première expérience professionnelle qui a été assez forte, voilà, sur vraiment implémenter les choses. Et ça m'a permis de directement arriver à essayer de scale sur des sujets un peu plus stratégiques parce que j'avais déjà une base très solide. Donc pour moi, Rothschild, c'est une base et c'est des hard skills très solides. C'est vraiment une super expérience. Et après, c'est aussi apprendre à travailler en équipe et prouver sa capacité de travail, ça c'est évident.
Donc hard skills que tu as redéveloppé encore, j'imagine, chez Lazada, avec ensuite d'autres apprentissages évidemment. Tu as été manager rapidement, donc tu gères des équipes. Quelle serait la plus grande difficulté ou l'obstacle que tu as trouvé le plus difficile en dehors des problèmes managériaux que tu as eu quand tu étais plus côté Alibaba dans la gestion de tes équipes?
Quand je suis arrivée chez Lazada, j'ai travaillé avec des gens qui avaient une culture complètement différente. Parce que mon équipe, c'était des Indonésiens. Et j'ai dû travailler avec des Indonésiens, manager des Indonésiens. Et je dirais que ça a été un assez gros challenge d'apprendre à se comprendre et à travailler ensemble. Donc, d'un point de vue opérationnel, quand toi, tu as une vision, c'est très difficile de partager cette vision à des gens qui ont une culture très très différente de la tienne, en tout cas au début. Parce que moi au début je suis arrivée, je comprenais pas les ressorts de ce qui les motivait, etc. Et puis après t'apprends à comprendre, eux ce qui les motive c'est de voir des résultats hyper rapidement. Donc comment est-ce que tu divises un grand projet pour qu'il y ait des petites victoires à chaque fois. Et une fois que t'as compris ces mécanismes, ça devient beaucoup plus facile et beaucoup plus réjouissif. Mais au début, c'est vrai que ça a été difficile de se comprendre avec des gens qui ont une culture très différente.
Ok, ok. J'ai une dernière question sur la partie plus Lazada et Alibaba, qui sont des entreprises, on va dire, dites tech, au sens où pour l'une, c'est une entreprise de e-commerce, et pour Alibaba, c'est une des figures en fait, de la scène tech chinoise.
Tout à fait.
Dans quelle mesure tu penses que c'est quelque chose de justifié de dire que ce sont des boîtes tech? Est-ce que tu le ressens dans la manière... Parce que ça veut un peu tout et rien dire. Est-ce que tu le ressens dans la manière de travailler? Comment ça se passe?
C'est une super question et je me suis beaucoup posé cette question en revenant parce que partout quand tu lis les journaux, les géants de la tech, c'est Alibaba, c'est Amazon, etc. Et moi quand j'ai travaillé chez Lazada / Alibaba, j'ai été super surprise du niveau d'intégration de la tech dans notre quotidien, qui était très très bas. On faisait tout sur des Excel et sur des Google ou Office Sheet. Nos systèmes de back-end sur le e-commerce étaient vraiment, honnêtement, ils buguaient tout le temps. Pour résoudre un bug, c'était des mois, des semaines de tickets, etc. Et en fait, je pense que la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que tu as, oui, tu as Alibaba Group, qui a des entités qui sont très, très tech, qui sont les meilleures sur, du monde, évidemment. Mais ensuite, l'intégration de la tech dans des unités opérationnelles, c'est un autre sujet. Et moi, j'étais assez choquée, justement, de voir ce gap.
Ok. Ça a été un des éléments qui t'a poussé à repartir en France dans un autre projet. Je te laisserai peut-être entendre.
Ouais.
Justement, quels ont été les éléments, au-delà de la partie différence, différents managériaux et de culture d'entreprise, qui t'ont poussé à retrouver un challenge en France, chez Euritech? Comment t'as fait ce choix-là, en fait?
Moi, déjà, j'ai voulu rentrer parce que, effectivement, j'en avais un peu marre de travailler pour un grand groupe et je voulais un peu changer de perspective. Donc, ça a été la première chose. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, je veux travailler pour une boîte qui a encore tout à prouver et tout à construire. Et ensuite, effectivement, il y avait l'élément que tu mentionnes de la tech, de vraiment comprendre... qu'est-ce que c'est que la tech, en fait? Parce que moi, chez Lazada ou Alibaba, j'ai pas vraiment été un acteur de la tech. Et donc, c'est un peu les deux éléments que j'ai voulu inclure dans mon parcours en France.
Donc, tu rejoins Euritech à ce moment-là. Comment tu as choisi cette start-up? Comment tu es arrivé finalement avec un poste qu'on appelle C-level, c'est-à-dire des postes de direction dans une start-up française?
Alors moi déjà, je ne suis pas arrivée C-level, hein. Je suis devenue C-level, donc on pourra peut-être en parler après. Mais la manière dont j'ai choisi Euritech en tant que boîte, c'est en partant de ces critères, c'est de me dire quelle est la taille de la boîte dans laquelle tu veux travailler. Donc moi, je voulais une boîte post-seed, parce que je voulais un salaire, mais pré-série A, parce que je voulais avoir vraiment un impact sur la stratégie de la boîte.
Pour resituer, seed, c'est la première levée de fonds d'une start-up.
Oui.
Les investisseurs... Business Angel ou Venture Capital. Série A, c'est la deuxième, et ensuite les séries s'enchaînent, ça passe de série A, série B, série C, etc. Donc voilà, je te laisse continuer.
Exactement, je voulais avoir un maximum de chances que cette start-up puisse réussir, donc et les éléments de la réussite, et qui peut mieux savoir que ceux qui investissent, c'est-à-dire les fonds. Donc j'ai regardé un peu les grands fonds d'investissement à Paris, où est-ce qu'ils avaient investi dans les phases de seed série A. Et j'ai notamment regardé Serena Capital, et j'ai regardé quelles étaient leurs boîtes et s'il y avait des opportunités dans ces boîtes-là, du portefeuille. Et puis j'ai trouvé Euritech. Pour moi, le secteur n'avait pas une énorme importance. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est le critère numéro un. Pour moi, c'était vraiment la taille et l'équipe. Et c'est comme ça que j'ai fait mon choix.
Et donc, tu as rencontré les fondateurs?
Voilà.
Directement?
Exactement. En fait, j'ai écrit un mail à... Comment ça s'est passé? Très concrètement, je vois Serena investie dans Euritech. Je vais sur Welcome to the Jungle. Et puis, je vois la présentation d'Euritech. Je vois que le CEO, Tony Pinville, fait une vidéo qui a l'air assez sympa, assez smart, une vision qui me plaît. Je ne sais même pas s'il y avait un poste ouvert à l'époque. Je lui envoie juste un mail. Je trouve que Euritech, c'est super. J'aimerais bien en savoir un peu plus. Et donc, on s'est rencontrés. Il s'avère qu'ils avaient une activité assez importante à ce moment-là parce qu'ils venaient de gagner le LVMH Award à Vivatech. Et du coup, ils étaient un petit peu, comment est-ce qu'on structure tout ça? Et je me suis insérée. Je suis arrivée, on va dire, sur un rôle... Franchement, la start-up, elle était encore tellement jeune que c'était pas structuré les équipes, mais on va dire sur un rôle plus ou moins de biz dev.
Okay. Tu faisais quoi à ce moment-là? Ouais. Concrètement, tu cherchais des clients?
Concrètement, en fait, il y avait eu Euritech, ça a été en phase de seed. On avait un gros client qui était Louis Vuitton. Et l'objectif et ma mission, ça a été de répliquer ce qu'on avait fait avec Louis Vuitton à un nombre de clients plus grand. Donc, je suis allée chercher les marques similaires à Vuitton. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce que ces marques veulent, de quoi elles ont besoin, c'est quoi l'offre qu'on peut construire et ensuite, comment est-ce qu'on les embarque avec Euritech. Et donc, on est passé de Vuitton à Vuitton, puis Dior. On est allé voir les autres marques du groupe LVMH, on est allé voir les concurrents et on a été peu à peu un acteur assez incontournable dans le luxe. Et puis après, on a développé d'autres marchés.
Et ensuite, tu progresses dans l'entreprise. Et comment finalement ton activité a évolué de ton ton entrée chez Euritech jusqu'à ce que tu fais un vrai poste de direction.
Ouais, exactement. En fait, je dirais pas que j'ai grimpé des échelons, mais j'ai créé des échelons en dessous de moi, on va dire, en créant des équipes et en ayant une vision. Quand on rentre dans une start-up, honnêtement, les structures sont, ça dépend des boîtes, encore une fois, je ne veux pas faire de généralité, mais sont assez horizontales. Et puis, plus la boîte se structure, plus on a besoin de se dire, ça ne peut pas juste être le biz ou la tech. Il faut commencer à structurer les équipes. Donc, je me suis dit, de quoi j'ai besoin ? J'ai besoin d'une personne en sales pour faire de l'acquisition. Et ensuite, j'ai besoin d'une personne en customer success pour s'occuper et rendre satisfaits nos clients existants. C'est comme ça que j'ai créé une équipe de sales, puis une équipe de customer success. Et puis ces équipes se sont multipliées, on va dire, parce que le business croissait. Et donc, moi, je suis montée en compétences managériales et dans mon poste jusqu'à devenir CRO, donc Chief Revenue Officer et membre du COMEX.
Tu gères combien de personnes aujourd'hui dans ton équipe ?
Aujourd'hui, c'est une dizaine de personnes.
Sur une cinquantaine d'employés ?
Ouais. Sur 45 employés, exactement.
Pour terminer là-dessus, il y a une question, je pense, qui est intéressante, et on en parlait juste avant d'enregistrer le podcast, justement, qui est celle de la rétribution financière et le choix que tu fais quand tu rejoins une start-up assez jeune. Juste pour se faire une idée et de manière très transparente, est-ce que tu pourrais expliquer un peu les quelques démarches à avoir en tête si on veut avoir ce type de position-là, que ce soit en termes de négociation de salaire ou aussi de part de l'entreprise, puisque c'est une dimension qui est importante quand on fait le choix de rejoindre une boîte qui est plutôt jeune.
Tout à fait, et il y a énormément de différences selon le stade de la boîte, selon si la boîte a levé des fonds, pas levé de fonds, selon si elle a déjà des employés, pas des employés. Donc, en général, rejoindre une start-up jeune, c'est un sacrifice sur le salaire. En revanche, il faut penser package global. Package global, c'est le salaire, mais c'est aussi le bonus et c'est potentiellement des options. Donc, ce qu'on appelle plus couramment dans le jargon BSPCE. Donc après, c'est un peu un arbitrage entre qu'est-ce que j'ai maintenant et comment est-ce que je peux compenser, notamment par des BSPCE. Moi, c'est un arbitrage que j'ai fait et qui paye si la boîte marche. Et idem, le bonus n'est pas à négliger, surtout dans des postes de commerciaux où la boîte a du mal à payer dans un premier temps, mais peut rétribuer une partie du chiffre d'affaires qui a été généré.
T'as une partie d'affaires qui peut être plus ou moins intéressante et t'as cette logique de part. Comme tu en parles, des options, tu me dis si je me trompe, où l'idée c'est de se dire j'ai une part de l'entreprise maintenant, si l'entreprise grossit dans un modèle de levée de fonds, sa valorisation va augmenter au fur et à mesure, peut-être jusqu'à un jour être rachetée ou s'introduire en bourse, et moi à ce moment-là, j'aurai le droit d'exercer ces options et de récupérer une partie du capital et du risque que j'ai pris en rejoignant la boîte. C'est bien ça ?
C'est exactement ça. Et il faut quand même avoir en tête que pour que ça vale quelque chose, il faut que l'entreprise ait ce qu'on appelle une exit, c'est-à-dire soit une introduction en bourse, soit un rachat par un industriel ou par un fonds.
Ce qui n'est pas du tout évident. Bien choisir sa boîte, c'est une démarche qui est intéressante, je pense, celle que tu as décrite, de se dire je maximise mon choix d'entreprise en regardant ce que les bons fonds d'investissement français selon les entreprises dans lesquelles ils ont pu investir et derrière les contacter.
Exactement.
Écoute, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. Est-ce que pour terminer, il y aurait une chose dont on n'aurait pas parlé, que tu aimerais mentionner, ou un conseil que tu aurais à donner à des étudiants qui sont en réflexion sur leur parcours, peut-être à l'idée d'aller travailler à l'étranger en sortant d'école, ou tout simplement de se projeter dans une boîte ou un grand groupe, comme c'était plus le cas chez Alibaba et auparavant Lazada?
Le conseil que je donnerais, c'est de prendre du temps. Moi, quand je suis allée chez Lazada, j'ai un peu voulu me précipiter sur une opportunité que j'avais et que je regrette pas du tout, mais j'ai pas pris le temps d'étudier c'est quoi, quand je sors d'école, toutes les possibilités qui s'offrent à moi. C'est quoi une start-up? C'est quoi un grand groupe? C'est quoi être à l'international? C'est quoi rester en France? Et je pense qu'il faut prendre un peu de temps, quelques mois, pour vraiment étudier ça et comprendre comment est-ce que ça s'insère dans un parcours un peu plus global. Et d'où je trouve la génialité de ce podcast, c'est de permettre à ces jeunes auditeurs de pouvoir comprendre les différents parcours et les options que vous avez pour vous, votre parcours. Et il ne faut pas être à quelques semaines ou à quelques mois près pour trouver un job, parce qu'un job, c'est le début d'une carrière, et une carrière, c'est les premiers choix qu'on prend ont un impact très important sur le reste de la carrière.
Pas se presser. Petit point juste, Covid, on va dire. Je pense que tu as de la visibilité un peu sur comment le monde ou l'écosystème des startups recrute en ce moment. Quel impact tu vois, qui ne sont pas des impacts évidents à déchiffrer quand on n'est pas dans cet écosystème-là, sur les dynamiques de recrutement après la période qui s'est écoulée là et qui va sûrement déboucher sur une forme de récession économique?
Il y a de tout. Il y a des startups qui ne vont pas survivre au Covid. Et moi, je connais beaucoup, beaucoup de startups qui continuent à embaucher comme elles le faisaient avant. Globalement, l'univers des startups, c'est un univers très dynamique. Il y a beaucoup, beaucoup d'embauches. Donc, je pense que pour les gens qui cherchent en startup, je ne me fais pas trop de soucis. Je dirais même que c'est une opportunité, parce que toutes les startups qui marchent moyen, elles ne recrutent pas. Donc, celles qui recrutent, c'est uniquement les top startups. Et je pense qu'il y a plein d'opportunités et que ça réduit peut-être en nombre de jobs disponibles, mais ça ne réduit pas en termes de débouchés globaux.
Ok, super. Ben, écoute, merci beaucoup, Shana. Je pense que c'est hyper clair. Je te souhaite encore beaucoup de réussite chez Euritech. Et puis, à très bientôt.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à suivre la page Instagram ou LinkedIn de Sonar. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et surtout en parler autour de vous, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître le projet. À très vite pour un nouvel épisode.